Et avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, bienvenue si vous nous rejoignez, comme tous les jours vous le savez, RFI vous donne la parole et nous sommes vendredi, c'est donc la libre antenne, vous pourrez commenter l'actualité de votre choix, revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale. Vous êtes encore très nombreux ce matin à commenter l'ouverture du procès de Laurent Gbagbo, c'était hier devant la Cour pénale internationale, des réactions et des témoignages concernant la crise burundaise avec évidemment en toile de fond le sommet de l'Union africaine. Les chefs d'État et de gouvernement africains vont se réunir. Ils vont évidemment aborder la question du Burundi. Auront-ils le courage d'adopter une résolution pour envoyer sur le terrain une force africaine et protéger la population? Cette question, en tout cas, suscite beaucoup de réactions standards. Nous en parlerons ensemble, tout comme la multiplication des attentats suicides au Cameroun. Voilà un sujet qui ne vous laisse pas indifférent. Encore un attentat suicide hier dans un marché de l'extrême nord du pays. Bref, tous les sujets nous intéressent. 33 9 693 693 70 et vous nous rejoignez également sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI, appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction d'RFI, des questions pour mieux comprendre, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons à l'antenne. Moustapha, bonjour.
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Très bien, ravi de vous entendre. Vous nous appelez de Ouagadougou, vous êtes au Burkina Faso et vous avez des questions concernant l'affaire de l'Arche de Zoé, du nom de cette ONG qui, rappelez-vous, avait défrayé la chronique en 2007 en tentant d'exfiltrer illégalement des enfants du Tchad.
Oui, oui, récemment un film est sorti le 20 janvier intitulé Le Chevalier Blanc sur l'affaire de l'Arche de Zoé. Je voulais profiter pour poser quelques questions. Est-ce que ces enfants ont été dédommagés? Est-ce qu'ils ont pu profiter d'un suivi psychologique? Et pour finir, comment se fait-il que ces personnes concernées n'ont pas été condamnées sévèrement?
Alors c'est vrai qu'un film sorti la semaine dernière en France s'intéresse à cette affaire, Les Chevaliers Blancs, avec notamment Vincent Lindon. Bonjour Simon Rosé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste au service France. Peut-être pour commencer, rappelons en quelques mots cette affaire. Tout commence en octobre 2007.
Oui, avec l'opération Darfour 2007, à ce moment-là, l'Arche de Zoé, c'est une association. Et avec cette opération, elle affirme vouloir collecter des dons pour se rendre au Darfour et organiser l'évacuation d'enfants de moins de 5 ans orphelins. Le but, c'est de les ramener en France ensuite pour leur faire obtenir un statut de demandeur d'asile via des familles d'accueil, familles qui sont donc invitées à faire des dons à l'association. Tout bascule le 25 octobre 2007, à ce moment-là, on est au Tchad, l'équipe de l'Arche de Zoé s'apprête à monter dans un Boeing 747 à destination de la France. Avec eux, il y a 103 enfants, mais ça ne se passe pas du tout comme ils l'avaient prévu, ils sont arrêtés par les autorités qui les accusent d'enlèvement.
Oui, puisqu'il faut le dire, la plupart de ces enfants n'étaient pas vraiment orphelins.
85% d'entre eux avait au moins un parent encore en vie. Et pour justifier ce convoi auprès des autorités tchadiennes, les 6 membres de l'Arche de Zoé qui ont participé à cette opération Darfour 2007, en fait, ils avaient évoqué une opération sanitaire. Ils avaient mis de faux bandages et des pansements sur les enfants. Bref, ça n'a pas marché. Ils sont arrêtés, ils sont jugés et condamnés au Tchad, rapatriés en France comme c'est l'usage pour qu'ils puissent purger leur peine en France. Mmh. Mais ensuite, ils sont graciés au Tchad, donc libérés en France.
Et malgré tout, malgré cette libération, il y a eu bel et bien un procès en France.
Oui, parce qu'en dehors des procédures qui ont été menées par la justice tchadienne, la justice française s'est également saisie du dossier. Alors après 2 procès, Éric Brotteau, le président de l'association, et Émilie Lelouch, sa compagne, sont condamnés à 2 ans de prison avec sursis pour escroquerie au préjudice de familles qui comptaient accueillir les enfants en France et exercice illicite de l'activité d'intermédiaire à l'adoption. Ce qui est important de noter, en fait, c'est qu'on est là dans le dossier français. C'est pour ça que les familles tchadiennes ne sont pas mentionnées, en fait, dans ces jugements.
Et les enfants, du coup, que sont-ils devenus?
Eh bien, ils sont retournés dans leur famille. La question du dédommagement se pose toujours. Leurs parents n'ont pas touché un centime. Et quant aux enfants, pour répondre à Moustapha, pas de suivi psychologique. Logique, puisqu'ils n'ont finalement pas quitté le Tchad, ils vivent aujourd'hui avec leurs proches et ils ont repris le cours de leur vie.
Ouais, donc les enfants n'ont pas pu bénéficier d'une aide pour accuser le choc du traumatisme d'un enlèvement. Il faut tout de même préciser que sur le volet judiciaire, Éric Brotteau et Émilie Lelouch, donc ce fameux couple, ont été condamnés à de la peine avec sursis lors du procès en appel.
Lors du deuxième procès.
Lors du deuxième procès, peine qui avait été d'ailleurs plus sévère lors du premier procès.
Oui, c'était 2 ans de prison ferme cette fois et 50 000 euros d'amende, plus bien bien sûr une interdiction d'exercer toute activité d'accueil. Ça a été maintenu. La peine a donc été allégée en appel, puisque ce deuxième procès, il s'était déroulé dans une ambiance assez particulière, peut-être même bienveillante, si on peut dire. J'ai retrouvé un peu mes notes de l'époque, à l'époque du procès. Et il y avait cette déclaration de l'avocat général, donc qui représente le parquet. Vous n'êtes ni des voyous, ni des bandits, ni des escrocs, au sens où le grand public entend ce terme. Grosso modo, la thèse qui était retenue à l'époque, et c'est aussi sans doute parce que l'enquête a montré des éléments allant dans ce sens, c'est que les responsables de l'Arche de Zoé étaient avant tout des idéalistes, des naïfs, qui ont commis un délit. Ils savaient qu'ils faisaient un délit, mais ils ont agi pour un motif qui, eux en tout cas, en sont convaincus, était humanitaire. Ça n'en reste pas moins une faute aux yeux de la loi. Ils ont été condamnés, certes, avec sursis, mais c'est ce raisonnement qui explique en fait cette clémence du tribunal à l'époque.
Mustapha, à Ouagadougou, on a répondu à vos questions.
Oui, ok, merci beaucoup, Juan.
Bah, merci surtout à Simon Rosé qui est venu nous rappeler tous ces détails. Bonne journée à tous les deux, 9h16 ici à Paris. Ce sont vos questions à la rédaction, 339-693-693-70. Bonjour François.
Oui, bonjour Juan.
Vous avez des questions concernant la Centrafrique et le processus électoral.
Oui, oui, merci bien. En Centrafrique, la Cour constitutionnelle a validé les résultats des élections présidentielles, tout en annulant les résultats des élections législatives alors qu'elles étaient organisées dans les mêmes bureaux de vote. Comment cela peut-il s'expliquer ?
Ah, excellente question. Les résultats du premier tour de la présidentielle ont été validés, alors que ceux des législatives ont été annulés. Et c'est vrai, vous avez raison de le rappeler, François. Ces deux scrutins se sont déroulés le même jour dans les mêmes bureaux de vote. Pierre Pinto, bonjour.
Bonjour, Anne.
Journaliste au service Afrique d'RFI, spécialiste de la Centrafrique. Vous avez eu l'occasion de vous y rendre à plusieurs reprises. Pourquoi la Cour constitutionnelle a-t-elle annulé tout simplement le premier tour des législatives ?
C'est tout le débat, justement. Et certains candidats sont montés au créneau dès l'annonce de cette invalidation. C'est le cas de Martin Zigele, par exemple, arrivé quatrième au premier tour de la présidentielle avec 11,4% des voix. Il déplorait que, en Centrafrique, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Zigele, avec son parti, le MLPC, appartient à une plateforme qui s'appelle l'AFDT, à laquelle appartient aussi le parti de Désiré Kolingba, arrivé lui troisième à la présidentielle avec 12%. Et l'AFDT a publié cette semaine un communiqué pour dénoncer, justement, le fait que toutes les fraudes, toutes les irrégularités, les manquements et parfois les violences, les intimidations que la Cour constitutionnelle a relevées avaient affecté en effet les deux scrutins et que les deux auraient dû être annulés. Il faut dire que la Cour a reçu plus de 400 dossiers en contentieux. On y trouve des bulletins de vote des législatives erronés dans certaines circonscriptions, des bulletins qui ne sont même jamais arrivés dans certains bureaux de vote, des feuilles de résultats erronées également, des plaintes concernant des trafics de cartes d'électeurs, des intimidations, voire des menaces contre des candidats ou des électeurs par des hommes armés. Ensuite, des problèmes dans la compilation et la remontée des résultats, dans le remplissage des PV et des feuilles de résultats. Énormément de plaintes donc. Et il faut bien reconnaître que la Cour n'avait pas les moyens d'enquêter sur chaque cas. Or, devant la profusion de dossiers, souvent bien renseignés, elle a décidé qu'on recommence les législatives.
Alors pourquoi n'annuler que les législatives et pas les deux scrutins finalement ?
Alors, on s'attendait dès le départ à l'invalidation des législatives dans certaines circonscriptions. Des sources bien renseignées parlaient même d'une quarantaine de circonscriptions sur 140, ça fait beaucoup. Certains disent même que le nombre de législatives partielles aurait pu dépasser le nombre de scrutins sans problème et qu'il était donc plus sage de recommencer. Ça, c'est l'argument d'Anissé Georges de Loguélé qui est arrivé premier à la présidentielle. C'est vrai qu'il y a eu donc des recours déposés aussi dans le cadre de la présidentielle, mais alors l'argument de la Cour constitutionnelle de transition, c'est de dire que les irrégularités ou les fraudes, comme elles ne vont pas toutes dans le même sens, n'ont pas altéré de manière significative les résultats de la présidentielle. En revanche, ces irrégularités ou fraudes faussent les résultats des législatives, un argument qu'on peut entendre. C'est vrai que dans une petite ville, une différence de quelques milliers ou quelques centaines de voix, ça peut faire une différence. À la présidentielle, non, ou moins, en tout cas, compte tenu des écarts entre les candidats. Et les candidats perdants que j'ai cités ne sont donc pas d'accord, eux, avec cette analyse, mais les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives.
Voilà, et donc les législatives auront lieu le 14 février.
Voilà, nouveau premier tour des législatives le 14 février, en même temps que le second tour de la présidentielle.
À suivre donc, et d'ailleurs si vous souhaitez commenter cette nouvelle date des élections, surtout n'hésitez pas, profitez-en, la libre antenne c'est dans 20 minutes, vous nous appelez au 339 693 693 70. Merci Pierre Pinto.
bientôt.
Bonne journée à vous. François, merci de nous écouter à Boussé. Boussé, c'est à une centaine de kilomètres au nord de Ouagadougou, au Burkina Faso. Avec nous, Aymar, en ligne de Brazzaville. Bonjour Aymar.
Bonjour Wally, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Alors vous avez des questions concernant les sanctions européennes contre la Russie.
Tout à fait, les autorités françaises ont indiqué que la France visait la levée des sanctions contre la Russie. Alors j'aimerais savoir quel impact cela pourrait avoir sur l'économie européenne, notamment sur les agriculteurs français. Et la deuxième, quelles sont les conditions pour que les levées des sanctions soient effectives?
Alors vous avez raison, c'est vrai que cette semaine, Emmanuel Macron, le ministre français de l'économie, s'est rendu à Moscou pour tenter de réchauffer les relations entre Paris et Moscou. Il s'est prononcé en faveur de la levée des sanctions européennes appliquées à la Russie. Bonjour Agnès Kakoumor.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste au service économie d'RFI. Ces sanctions commerciales, elles sont en vigueur depuis que la Crimée a été annexée par la Russie. Du coup, les Russes, eux, pour se venger des Européens, ont mis en place un embargo qui vise notamment et principalement les produits agroalimentaires. Est-ce qu'on se dirige maintenant vers une levée des sanctions?
Eh bien, l'éventualité d'une levée des sanctions commerciales imposées à la Russie se précise effectivement depuis l'entrée de ce pays dans la coalition internationale contre l'organisation État islamique en novembre dernier. Mais comme l'a souligné le Premier ministre français Manuel Valls, cette levée ne se ferait qu'à condition que la Russie remplisse ses engagements pris à Minsk. Il s'agit des accords conclus en 2014 dans la capitale biélorusse pour mettre fin à la guerre en Ukraine orientale. Alors, il est plutôt difficile d'évaluer l'impact d'une levée de l'embargo sur l'économie européenne. Ce qu'on peut dire, selon une étude réalisée il y a 6 mois par l'ENA, alliance de 7 quotidiens leaders en Europe, la crise en Russie a pu coûter à l'Union européenne plus de 2 millions d'emplois.
2 millions d'emplois.
Et 100 milliards d'euros de richesses produites. Le secteur agroalimentaire a particulièrement pâti de cette crise en termes de pertes d'emplois. L'Allemagne, la Pologne, l'Italie, l'Espagne ont été le plus touchés.
Les Français aussi, surtout les agriculteurs.
Eh bien, les agriculteurs français aussi ont subi de plein fouet cette crise. L'hypothèse d'une levée des sanctions pourrait effectivement constituer une véritable bouffée d'air pour les éleveurs, dont les manifestations se multiplient actuellement dans l'ouest de la France. Le gouvernement vise l'été prochain pour la levée de l'embargo. Alors, les éleveurs devront donc patienter encore quelques mois avant de voir le bout du tunnel. Mais la levée des sanctions n'est pas tout, Juan. L'économie russe est en pleine récession. L'embargo n'est pas le seul responsable. Il y a aussi la chute des cours du pétrole, la dévaluation du rouble. Et puis, le PIB du pays pourrait descendre jusqu'à moins 1% en raison notamment d'une chute attendue de la consommation.
Donc même une levée des sanctions ne suffirait pas aujourd'hui à relancer l'économie russe. En tout cas, il n'y a qu'une seule condition pour lever ces sanctions. Il faut que la Russie remplisse ses engagements pris, comme vous le disiez, à Minsk. Et pour l'instant, on voit bien que ces accords peinent toujours à entrer en vigueur. Merci beaucoup Agnès Chakoumor du service Éco d'RFI. Aymar, bonne journée à Brazzaville. Si vous prenez cette émission en cours, vous avez peut-être raté une explication, vous souhaitez peut-être la réécouter, bien surtout, n'ayez aucune crainte. Vous pouvez le faire évidemment à tout moment sur le site RFI.fr, mais aussi tous les jours sur la page Facebook de l'émission. Et d'ailleurs, depuis cette semaine, vous pouvez nous voir en vidéo, donc surtout n'hésitez pas, venez voir un peu les coulisses de l'émission sur la page officielle de l'émission RFI Appel sur l'actualité, la page Facebook. 9h24 à Paris, vos questions à la rédaction, on va s'intéresser à la situation en Haïti après l'annulation du second tour de l'élection présidentielle qui devait se tenir dimanche dernier. Jean, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de...
Bonjour les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Cotonou au Bénin.
De Cotonou.
On vous écoute.
Oui. Voilà. Donc, comme vous l'avez bien dit, le deuxième tour des élections présidentielles haïtiennes prévues le 24 janvier ont été reportées à plus tard. Alors, moi, j'aimerais savoir pourquoi le Conseil électoral provisoire a attendu jusqu'à la veille des élections avant d'annoncer le. Et puis, je voulais aussi savoir qu'est-ce que la Constitution haïtienne prévoit si au 6 février À la fin de la journée du 6 février, il n'y a toujours pas un président élu.
Oui, c'est vrai que le mandat du président Martelly prend fin dans 10 jours, le 7 février, et autant le dire tout de suite, oui, il y aura un vide présidentiel. Marcel Dorigny est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en histoire à l'université de Paris 8 Saint-Denis, vous êtes spécialiste de Haïti. Expliquez-nous pourquoi 48 heures avant le scrutin, il a été décidé de reporter l'élection présidentielle.
Mais en effet, c'est une situation, une décision qui peut paraître surprenante. Le président Martelly, l'ensemble des instances chargées d'organiser, enfin le mot n'est peut-être pas juste, les élections, avait dit, réaffirmé que les élections auraient lieu, que le deuxième tour aurait lieu, malgré le fait tout de même essentiel qu'il n'y avait plus qu'un seul candidat, ce qui rend évidemment l'élection un peu curieuse, à nos yeux, à nous en tout cas. Oui. Une élection où il n'y a qu'un seul candidat, évidemment, ça devient presque, hein, disons-le, une farce électorale, puisque le candidat est nécessairement élu. Et le risque, c'était d'abord des troubles extrêmement violents. Il y en a eu beaucoup.
Il y en a eu beaucoup. Il y avait les manifestations étaient devenues de plus en plus nombreuses et de plus en plus violentes, puisque rappelons qu'une grande partie de l'opposition conteste les résultats du premier tour de l'élection présidentielle.
Voilà. D'où la démission de celui qui est arrivé en second. Bon, un seul candidat pour une élection, c'était très contestable.
D'autant que le seul candidat qui restait, si vous le permettez, Marcel Dorigny, c'est le poulain du président sortant.
Voilà, c'est tout le problème est là, c'est que c'est le candidat du président qui est resté en lice. Le second a préféré se retirer, probablement parce qu'il avait la certitude qu'il ne serait pas élu. Il y a dénonciation, il y a risque de manipulation des urnes, etc. Donc toutes ces conditions font que le deuxième tour était très compromis, mais il avait été maintenu contre vents et marées, si je puis dire. Alors, le deuxième point, c'est que, enfin, le deuxième risque, c'était évidemment que la participation était très faible. Les électeurs déjà peu mobilisés au premier tour, 26% seulement, si j'ai bonne mémoire, ne seraient pas précipités en masse vers les urnes pour élire un président alors que les jeux étaient faits, un seul candidat nécessairement élu. Donc toutes ces considérations-là font que on a préféré, peut-être à tort, peut-être à juste titre, enfin c'est impossible à dire, annuler le deuxième tour et le reporter. C'est-à-dire on ne sait pas quand.
Effectivement.
Sans date.
Alors,
c'est le problème.
Alors il y a une échéance, c'est la date du 7 février. Ce jour-là, le mandat de Michel Martelly, le président sortant, qui ne peut pas se représenter en raison de la Constitution, son mandat expire. Que va-t-il se passer? Que prévoit la Constitution dans ce cas de figure?
Bien rien. La Constitution précédente prévoyait tout un système compliqué d'intérim. En cas de vacance du pouvoir, ça pouvait aller très loin, ça pouvait même aller jusqu'à une présidence collective. Cet article, cette disposition a été purement et simplement abrogée. Donc dans la situation actuelle, il n'y a rien de prévu. Ce sera donc une improvisation non constitutionnelle. Soit le président Martelly décide d'assurer lui-même l'intérim, c'est-à-dire de proroger son mandat, ce qui en principe, dans un système de démocratie électorale représentative, ne se fait pas. Un mandat est quelque chose d'absolument sacré, si je puis dire. Le mandat contient la nature des pouvoirs, etc., mais la durée. C'est essentiel. La durée du mandat fait qu'on ne dépasse pas le mandat prévu. C'est la base de la démocratie électorale.
Donc il faut absolument trouver une solution politique dans les 8 prochains jours.
Un collège qui s'autoproclame, ça peut... Bon, il faudra trouver une solution. La communauté internationale, qui a en grande partie, comme vous le savez, financé tout le processus électoral depuis des mois, qui a coûté très cher, est très très vigilante et avait beaucoup insisté, c'était une des pressions qu'il y avait sur Martelly, pour que les élections aient lieu quoi qu'il arrive. Eh bien, elles n'ont pas lieu, elles vont être reportées, et ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'a pas de la moindre idée de la date. Il va falloir refaire un premier tour, probablement, ou là on repart sur le second tel qu'il était, annulé.
En sachant que le premier est contesté, donc la crise est loin d'être terminée. Merci Marcel Dorigny de nous avoir éclairé, d'avoir répondu à Jean qui nous appelait de Cotonou. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en histoire à l'université de Paris 8 Saint-Denis. Vous restez avec nous dans un instant le journal et RFI continue évidemment à vous donner la parole. La libre antenne, ce sera dans 10 minutes.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Orange Money après le journal.
7 milliards de voisins.